Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Afrique 7 jours. Au menu de ce magazine, l'Afro-Presse ou le commentaire de l'actualité africaine par la presse allemande. Et c'est avec vous, Philippe Poyan. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Alors, comme chaque semaine, vous avez retenu deux sujets pour cette Afro-Presse.
Oui, l'un concerne la Gambie et l'autre concerne les éléphants.
Voilà Philippe, restez avec nous et on vous retrouve donc tout à l'heure vers la fin de ce magazine. Afrique 7 jours, c'est aussi Blogosphère, le rendez-vous avec les blogueurs africains. Ce soir, nous recevons Sui Kaoufi, un blogueur de nationalité ivoirienne. Et avec lui, nous ferons un tour d'horizon de l'actualité politique dans son pays, la Côte d'Ivoire. Afrique 7 jours, c'est d'abord et surtout la rétrospective hebdomadaire de l'actualité africaine. Tous les regards sont donc tournés vers la République centrafricaine qui a organisé le 30 décembre dernier un double scrutin législatif et présidentiel. Et sur les 30 candidats en compétition à cette présidentielle, deux anciens premiers ministres se sont détachés du lot. Anissé Georges Dologuele, le candidat de l'URCA, l'Union pour le Renouveau Centrafricain, et Faustin Archange Touadéra, le premier vice-président suspendu du Kouanakoua, le parti du président déchu François Bozizé. Anissé Georges Dologuele a justement reçu le soutien du KNK avec lequel il a conclu un accord politique avant le premier tour du scrutin. Question, cet accord sera-t-il toujours valable pour le second tour? François Bozizé a répondu à cette question. C'était mardi dans notre édition de 17h TU.
On a signé un accord avec lui et Touadéra, c'est le vice-président de mon parti. Ce ne sera pas un dilemme. Quoi qu'il en soit, là où je donnerai le top, celui-là va rapporter. Touadéra est allé candidat seul avec mon autorisation. De Legele, c'est le bureau politique qui s'est prononcé. Comme je n'étais pas là, alors, le chef n'est pas là, et les choses tangent par-ci, par-là, et c'est ce qui est arrivé, mais c'était interne à nous. Touadéra comprend très bien ce de quoi il s'agit.
Voilà, Touadéra comprend très bien ce de quoi il s'agit. C'était François Bozizé Yangunvonda, le président de la Convergence nationale du KNK, le Kouanakoua, qui signifie littéralement en sango, la langue la plus parlée en RCA. Le Kouanakoua donc qui veut dire le travail, rien que le travail. De Bangui, on traverse le fleuve Oubangui pour nous retrouver de l'autre côté de la rive en RDC, la République démocratique du Congo, où plusieurs centaines de militants du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie au pouvoir, ont répondu mardi à l'appel de leur formation politique à l'effet de soutenir le dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila Kabengé. Kikaya Bin Karoubi, conseiller diplomatique du président Kabila, par ailleurs membre du PPRD.
Il y a d'autres politiciens véreux en mal de positionnement qui pensent que manifester dans la rue, c'est une façon de faire une démonstration de force. Non, aujourd'hui, le PPRD vient de montrer qu'on peut manifester d'une manière pacifique. Nous n'avons insulté personne, nous n'avons cassé le magasin de personne, nous n'avons bousculé personne, alors dans la paix et dans la discipline.
Le conseiller diplomatique du président Kabila est membre du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Kikaya Bin Karoubi. De l'Afrique centrale, on met le cap sur l'Afrique de l'Ouest, plus précisément à Conakry, la capitale de la Guinée. La Guinée qui a eu un nouveau gouvernement cette semaine. L'équipe formée par le Premier ministre Mamadi Youla est composée de 31 ministres, dont 7 femmes à des postes stratégiques. Ce qui réjouit la directrice exécutive du centre FECPA, femme citoyenne et paix de Conakry. On écoute Michel Koundouno.
C'est une première dans l'histoire de la République de Guinée parce que le plus grand record, c'était 6 femmes dans un gouvernement. Ça, c'était au temps du président Sékou Touré. Et encore une fois, c'est aussi une première qu'une femme soit nommée au poste des finances depuis l'histoire de l'administration publique guinéenne. Et nous aurions aimé, notre centre, d'avoir autant d'hommes que de femmes comme membres du gouvernement.
Michel Koundouno, la directrice exécutive du centre Femmes, Citoyennes et Paix de Conakry, satisfaite mais à demi. Vous écoutez toujours Afrique 7 jours et c'est sur les antennes de la Deutsche Welle depuis nos studios de Bonn en Allemagne. Nous retrouvons notre blogueur Sui Kaofi et c'est bien sûr dans la rubrique Blogosphère, le rendez-vous avec les blogueurs africains.
Blogosphère.
Sui Kaofi, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, vous êtes en ligne d'Abidjan et vous animez un blog. Pouvez-vous nous rappeler déjà ce blog ?
Oui, le blog, c'est la Côte d'Ivoire au jour le jour et hébergé par mon blog.
D'accord. Alors, l'actualité en Côte d'Ivoire en ce début d'année, c'est la reconduction cette semaine donc, par Alassane Ouattara du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au poste donc, de Premier ministre. Qu'en pensent les Ivoiriens ?
Alors, tout le monde savait plus ou moins que le Premier ministre serait reconduit dans ses fonctions, dans la mesure où, on le sait, c'est un Premier ministre qui a travaillé sous le président Alassane Ouattara en qualité de ministre de l'économie et des finances. Il faut dire tout simplement que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a un parcours, on dirait, sans faute, dans la mesure où c'est un technocrate qui a su conduire ce troisième gouvernement d'Alassane Ouattara vers ce qu'il a lui-même appelé le train de l'émergence. Ça vous dit tout simplement que les Ivoiriens ne sont pas étonnés de cette reconduction, mais on se demande quelle sera encore la couleur de la nouvelle équipe qu'il devra diriger pour ce nouveau mandat d'Alassane Ouattara.
Oui, justement, le gouvernement est attendu en principe la semaine prochaine. Nos sources parlent même de mercredi. Est-ce que le FPI va accepter d'entrer dans ce gouvernement, comme le disent beaucoup d'analystes à Abidjan ?
Oui, on ne sait pas pour le moment si cela serait possible. On sait tout simplement que Pascal Affingué contient aujourd'hui une frange non négligeable du Front populaire ivoirien face à Bourama Sangaré. Et tout le monde se dit que le Front populaire ivoirien pourrait entrer au gouvernement. Mais attention, le président Alassane Ouattara a donc écarté tout de go, tout simplement la logique d'un gouvernement d'union nationale, tout simplement composé de plusieurs tendances politiques du pays. C'est pour vous dire tout simplement que le chef de l'État lui-même est contre cette logique de gouvernement d'union nationale, un gouvernement qui prenait en compte plusieurs tendances. On le sait, ce type de gouvernement a servi la Côte d'Ivoire du temps de la transition politique vers les élections. Et bien sûr, on a vu tout simplement en Côte d'Ivoire combien de fois il a été difficile pour le président Laurent Gbagbo de conduire le pays avec un tel gouvernement. Alors, pour le moment, on spécule encore sur le nom de ceux et celles qui vont rester, mais dans l'ensemble, on ne se fait pas d'idée. Il est clair que le chef de l'État ne saurait conduire la Côte d'Ivoire avec un gouvernement digne.
Oui, Sui Kaofi, l'autre actualité qui a défrayé la chronique la semaine, ou plutôt l'année dernière, c'est justement les affaires, disons, d'écoute téléphonique, hein, dans laquelle on a impliqué Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, et l'ex-ministre des Affaires étrangères burkinabé, Dibril Bassolé. Est-ce que le soufflet est retombé en ce début d'année ?
Non. L'affaire fait toujours la une des canards ici en Côte d'Ivoire. On attend véritablement qu'est-ce que 2016 nous réserve dans ce cadre-là. Si le Burkina Faso entend véritablement conduire, bien sûr, aller au bout de ces nombreuses plaintes contre la Côte d'Ivoire. Quand je parle de nombreuses plaintes, au-delà de l'affaire de cette tentative de coup d'État avec ses Ibrahim Bassolé, il s'agit également de l'affaire du mandat international contre la personne de Diemso, la personne plutôt de Blaise Compaoré, dans ce qui serait juste d'appeler l'assassinat président Thomas Sankara. On attend, on espère que 2016 va véritablement situer les responsabilités des uns et des autres sur cette tentative de coup d'État au niveau du Burkina Faso. Mais aujourd'hui même, les journaux, surtout ceux proches de l'opposition, continuent de marteler que Guillaume Soro est bel et bien derrière cette tentative de coup d'État du Burkina Faso. On continue d'en parler, évidemment. Les camps sont bien sûr divisés au niveau de la presse, mais également au niveau de la population, où beaucoup de personnes continuent de croire qu'il s'agit tout simplement d'une opération montée de toutes pièces contre la personne de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale.
Oui, mais est-ce que vous pensez que ces déboires risquent d'affecter la personnalité et l'aura de Guillaume Soro?
Pas véritablement, dans la mesure où il a autour de lui un véritable réseau de communication qui continue de faire passer un message selon lequel il a été tout simplement victime d'un traquenard, tout simplement monté, comme il a lui-même si bien dit, devant un parterre invité lors de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro continue d'être apprécié par une frange de la population qui voit en lui, comme d'ailleurs une autre frange de la population qui croit en Charles Blé Didé, cette nouvelle classe politique de la Côte d'Ivoire, quand bien même beaucoup d'Ivoiriens estiment que Guillaume Soro n'est pas un enfant de cœur et qu'il faut, dans un premier temps, qu'il commence d'abord par passer par ce que je serais tenté de dire, ce chemin de croix qui consiste pour lui à reconnaître les crimes qui ont été commis par la rébellion des forces nouvelles lorsqu'il tenait encore toute une partie de la Côte d'Ivoire.
Ouais, d'accord. Bien, on va suivre l'actualité donc de la Côte d'Ivoire avec l'entrée en fonction du gouvernement de Daniel Kablan-Duncan qui sera probablement connu donc la semaine prochaine. Merci beaucoup, Sui Kaofi, d'avoir été en ligne avec nous d'Abidjan.
Merci beaucoup.
Et à très bientôt. Après Blogosphère, on passe maintenant à l'Afropresse et on commence, Philippe, par la Gambie, un pays dont on ne parle pas souvent.
Depuis le début de l'année, toutes les femmes employées ou fonctionnaires des services publics ont l'obligation de porter le voile islamique en Gambie pendant les heures de travail. C'est un décret personnel du président Yahya Jammeh, relève la FAZ, la Frankfurter Allgemeine Zeitung. En décembre de l'année dernière, le président avait proclamé la Gambie, pays à majorité musulmane, république islamique, sans expliquer cette décision. En Gambie, jusqu'ici, musulmans, catholiques et anglicans vivent en bon voisinage, sans être perturbés par des extrémistes. Le quotidien de Francfort suppose que la transformation du pays en république islamique a surtout pour but de s'attirer les faveurs et d'obtenir des soutiens financiers des monarchies du Golfe, après que le plus gros donateur jusqu'ici, l'Union européenne, a en grande partie cessé ses paiements en raison d'entorses aux droits de l'homme dans le pays. La Gambie est par ailleurs pratiquement en faillite. Le déclin économique de l'ancienne colonie britannique est dû notamment à la personne même de Jammeh, parvenu au pouvoir en 1994 par un putsch. Jammeh, qui s'est auto-décerné le titre de professeur, menace les homosexuels de leur couper la tête. La Gambie est l'un des États les plus répressifs du continent. Les prisons abritent davantage d'opposants au régime que de criminels. Dans la 22e année du régime Jammeh, le pays est à genoux. Selon l'ONU, 60% des 1 900 000 Gambiens vivent dans la pauvreté. Dans l'index de développement des Nations Unies, la Gambie occupe le 151e rang sur 169 pays. Et parmi les migrants ouest-africains qui tentent de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée, les Gambiens sont les plus nombreux.
Le second thème que vous avez retenu, Philippe, concerne le plus gros habitant du continent africain et qui en est aussi un symbole, c'est-à-dire l'éléphant.
32 tonnes d'ivoire confisquées par les douanes en 2015, principalement dans les pays asiatiques, une quantité d'ivoire qui représente un nombre énorme d'éléphants abattus en Afrique par des braconniers et des trafiquants. C'est ce que rapporte le quotidien de Berlin, Tagesspiegel, qui relève que depuis 2013, le nombre des éléphants abattus dépasse constamment le nombre des naissances chez ces pachydermes. La Süddeutsche Zeitung remarque toutefois que les gardes-chasse réussissent tout de même, dans certaines régions, à freiner le carnage. Ce qui n'est d'ailleurs pas toujours du goût des petits agriculteurs qui, en bordure des parcs et réserves, cultivent le mil, le manioc ou le maïs. Le conflit éléphant-être humain pose des problèmes et face à la croissance rapide de la population humaine en Afrique, on a un besoin urgent de solutions non sanglantes. Or, l'intelligence des éléphants complique les possibles solutions. En effet, ces géants apprennent rapidement à ouvrir de simples portes et barrières avec leurs trompes ou à rabattre au sol des grillages électrifiés au moyen de branches. Et si les paysans essaient de les chasser en leur jetant des pierres, en les frappant avec des gourdins ou en tirant en l'air, cela ne fait que provoquer la colère de ces poids lourds, et alors, sauf qui peut. Mais il ne faut pas croire que ces majestueux géants n'ont peur de rien ni de personne, souligne la Süddeutsche. En effet, un adversaire minuscule mais féroce leur impose le respect, l'abeille. Et en particulier l'espèce africaine, très agressive. Une piqûre au bout de la trompe ou près des yeux est si douloureuse pour les colosses que dès qu'ils entendent le bourdonnement de ces insectes, ils prennent le large et avertissent leurs parents en trompettant un signal d'alarme. D'où l'idée développée par une zoologue d'origine britannique, Lucy King, qui a vécu dans plusieurs pays africains, une barrière de ruches. Les paysans, lassés des éléphants qui viennent ruiner leur culture, montent tous les 10 mètres des ruches sur des piquets ou des arbres et relient alors ces ruches avec un simple fil de fer. Si un éléphant touche ce fil de fer, les abeilles sont alarmées et leur simple bourdonnement fait fuir les pachydermes. Le projet est financé par l'organisation de protection Save the Elephants, Sauver les éléphants, par l'université d'Oxford et le fonds Walt Disney pour la nature. Les premiers tests réalisés au Kenya et au Botswana ont été un tel succès qu'ils vont faire école, selon le quotidien de Munich, qui souligne un effet secondaire positif à cette barrière de ruche, une source de revenus pour les paysans qui vendent le miel de ces abeilles gardiennes.
Voilà une histoire assez anodine. Merci Philippe et bonne fin de semaine à vous.
Bonne fin de semaine à tous.
Et c'est ici que s'achève Afrique 7 jours. C'était Eric Topona à la présentation. Je vous quitte sur ce proverbe guinéen. Ne fais pas confiance en l'homme car vous parlez la même langue. Fais plutôt confiance en celui avec lequel tu partages le même langage. Bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.
Ya dungele ma